Alors, j'ai vu passer ça, là, sur Twitter. 100 000 enfants dépistés au cours des deux dernières années dans le cadre du programme Agir tôt. Ça, c'est le programme que le docteur Lionel Carman est venu créer quand il s'est lancé en politique. Lui, il l'avait dit, moi, je m'en viens en politique pour aider les enfants. Lionel Carman, ministre délégué aux services sociaux et à la santé. Bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Alors, 100 000 enfants donc, qui ont subi un examen de la vue. Est-ce qu'on sait combien de ces 100 000 ont eu besoin d'une paire de lunettes par la suite? Est-ce qu'on a ces chiffres-là?
Oui, ben en fait, c'est même plus que ça qui ont utilisé le programme pour avoir des lunettes. Ça, c'est 100 000 qui ont été évalués à l'école dans le programme scolaire. Mais les lunettes la première année, ont été offertes à 140 000 enfants. Et là, cette année, depuis le mois d'avril jusqu'à la fin septembre, c'est un autre 50 000 enfants qui ont reçu des lunettes gratuites, monsieur. Un remboursement de 250 $.
C'est ça, c'est 200. On a droit à 250 $ à tous les deux ans, hein, pour chacun de nos enfants. Jusqu'à quel âge ils ont droit à cette aide-là?
Jusqu'à l'âge de 18 ans.
18 ans.
Et on y va comme ça. Puis la procédure est vraiment très simple. Et on donne un montant, justement, forfaitaire pour simplifier les choses pour les familles.
OK. Donc, 140 000 enfants qui ont bénéficié de l'aide de 250 $ l'année passée, puis 50 000 enfants qui ont bénéficié de l'aide de 250 $ pour une paire de lunettes cette année.
Exactement.
C'est quand même quelque chose, c'est quand même beaucoup. Alors comment vous expliquez que ça a si bien fonctionné? Vous avez eu le concours des professionnels de la santé, nécessairement, qui sont allés dans les écoles. Ça, je pense qu'il faut le souligner, là.
Ah, tout à fait. Les optométristes, les opticiens, les ophtalmologues, tout le monde ont parlé du programme, tout le monde a insisté là-dessus, parce que vous savez, c'est important. C'est quand même une cause sous-estimée d'échec. De retard de développement, retard d'apprentissage, troubles d'apprentissage, les problèmes visuels. Puis on parlait l'autre fois récemment à notre symposium sur les écrans, l'impact des écrans sur les problèmes visuels de nos jeunes. Ça également, il ne faut pas le sous-estimer. Et c'est important de faire cette évaluation de la vue sur une base annuelle.
Là, j'ai un parent ou un papa ou une maman qui m'a écrit pour dire que son enfant souffrait de sécheresse oculaire qui est causée notamment par l'utilisation des écrans lumineux, les tablettes, les ordinateurs et tout ça. Et j'ai bien l'impression, Monsieur le ministre, qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont en avoir souffert, évidemment, à cause de la pandémie. Là, vous êtes médecin, mais vous n'êtes pas optométriste. Mais savez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant qui souffre de sécheresse oculaire?
Alors, ce qui est recommandé, c'est de à chaque 30 minutes de lâcher l'écran puis de regarder à distance. Évidemment, la meilleure remède pour ça, c'est d'aller jouer dehors régulièrement. Mais c'est sûr que l'utilisation prolongée des écrans, c'est un problème. Mais nous, on s'en vient avec les conclusions de notre forum sur les écrans et on va faire des recommandations le plus rapidement possible. En fait, d'ici la fin de l'année.
Voyez-vous, j'ai Marie-Claude qui m'écrit. Elle me dit « Ma fille a été dépistée la première année du programme, donc l'année passée. Je n'avais pas remarqué à quel point elle avait besoin de lunettes. Ça fait 2 ans qu'elle porte des lunettes. Si je n'avais pas eu ce dépistage à la maternelle, je ne sais pas si je l'aurais fait dépister et j'aurais peut-être pas pensé Je n'aurais peut-être pas pensé à ça si elle avait été en échec scolaire. » Elle dit « Je n'ai pas d'assurance, alors j'étais très contente de pouvoir bénéficier de la subvention de 250 $ C'est bien, c'est bon, ça.
J'en suis très fier, M. Drainville, du programme. Ouais. Il roule vraiment au maximum. Les chiffres sont exactement ce qu'on avait prévu. Bon. Et on va continuer à investir dans la vision de nos jeunes.
Très bien. Bon, quand je vous ai contacté, votre entourage m'a dit « Il faudrait aussi que tu lui poses une question sur la DPJ, parce qu'il a des choses à vous dire ». Sur la DPJ. Alors, dites-nous-les, M. le ministre, parce que demain, vous allez prendre la parole à l'Assemblée nationale, mais là, je pense que vous allez nous donner un petit avant-goût de ce que vous souhaitez dire au Parlement demain sur la question de la DPJ.
Écoutez, merci beaucoup de me donner cette chance-là. Je regarde les signalements encore cette année. Malgré les efforts qu'on fait, on voit que les signalements sont en train d'augmenter. Mais ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que oui, on a investi dans la protection de la jeunesse, mais on a beaucoup investi dans les programmes en prévention, en amont de la protection de la jeunesse. ces programmes-là sont encore sous-utilisés. Le premier, ça s'appelle les services intégrés en périnatalité et petite enfance. C'est pour quand les femmes sont enceintes ou quand on pense qu'il y a un problème au niveau familial pendant la grossesse, les intervenantes peuvent aller faire de la prévention dans les familles, peuvent améliorer la parentalité, les connaissances parentales et éviter un signalement dans ce contexte-là. Le deuxième dans lequel on a investi l'an dernier, ça s'appelle crise ado famille enfant. Où quand les jeunes se désorganisent, quand les jeunes ont des problèmes de comportement, souvent on les amène en psychiatrie à l'urgence, puis quand on les garde pas en pédopsychiatrie, on les réfère vers la DPJ. Mais on a un programme qui s'appelle CAF, qui est très efficace avec des intervenants qui agissent, qui viennent dans les 2 heures suite après qu'on les ait contactés, qui font une intervention intensive sur plusieurs jours et qui peuvent prévenir cette désorganisation-là. Eux aussi sont sous-utilisés.
Alors, comment on peut mieux les utiliser? Mettons qu'un parent nous écoute, il y a de la difficulté avec un ado ou une ado, l'enfant est en crise, il veut pouvoir profiter de ce service-là, il appelle où?
Bien, nous, la porte d'entrée qu'on veut qu'ils utilisent, c'est le 8-1 Info Social, l'option 2, pas le 8-1 Santé, là, mais le 8-1 Info Social, l'option 2, et ils vont vous diriger vers le bon intervenant. Sinon, ben, si vous connaissez le numéro de votre CLSC, si les services sont disponibles aussi à l'accueil du CLSC.
Ah, oh, mais docteur Carman, les CLSC font partie des CIS puis des CIUS. On n'est plus capable de leur parler, là. T'appelles le numéro, là, du CIS puis du CIUS. Puis là, ils te barouettent. Faites le 1, faites le 3, faites le 7. On n'est plus capable de rentrer dans les CLSC, là.
Mais dans ce temps-là, utilisez le 8-1 Info Social. Moi, je l'ai testé quelques fois. Ça fonctionne bien. Il y a un temps de réponse à l'intérieur de 2 à 3 minutes, et on répond aux appels de façon efficace. Puis le dernier programme, si vous me permettez, là, qu'on vient d'investir cette année, puis pendant ma tournée, je vois qu'ils sont en train de faire les recrutements, c'est le programme Négligence, qui existe depuis 2004. Vous savez, les enfants qu'on trouve qu'ils sont négligés par rapport à leur alimentation, oui, leur hygiène, ben, il y a des intervenants de première ligne qui peuvent nous aider pour ça. Puis souvent, c'est des signalements qui sont refusés à la DPJ, puis il n'y a pas de suivi de ce qui se fait à la famille dans ce temps-là. Mais si on met un intervenant en première ligne, on va s'assurer d'un suivi auprès de la famille.
Alors, comment on fait, encore une fois? Parce que le parent, là, qui néglige son enfant, il ne va pas appeler les services sociaux pour dire « je néglige mon enfant ». Fait que c'est quelqu'un de la famille ou un voisin ou un ou une amie qui s'aperçoit qu'un enfant est négligé et il va faire quoi, là? Il appelle le 811 puis il pèse sur l'option 2 puis il dit « moi, je connais un enfant à tel endroit qui est négligé par ses parents ou par son père ou sa mère ».
Ben, tout à fait. Parce que vous savez, les signalements de la DPJ, la majorité se font par les services scolaires, les services policiers et les intervenants du réseau de la santé. Donc, la plupart du temps, c'est des gens qui réfèrent des autres services vers la DPJ. Donc, il faut que ces gens-là, ils prennent le réflexe d'appeler la première ligne parce que nous, on travaille fort pour qu'elle soit au rendez-vous.
OK. Fait, en résumé, là, si vous connaissez un enfant qui est négligé ou qui est abusé, puis que pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas le goût d'appeler la police, vous pouvez, puis vous avez des raisons de penser que l'école ne s'en occupe pas, là, bien faites le 811, choisissez l'option 2 et vous dites qu'il va y avoir quelqu'un après quelques minutes d'attente qui va être prêt à nous écouter puis à dire « OK, j'en prends bonne note, quel est le nom de l'enfant, quelle est l'adresse, tati, tata », puis il va y avoir un vrai suivi qui va être fait, Lionel Carman.
Comment qu'ils vont intervenir? Et ils vont intervenir.
Et sûr que vous êtes sûr de ça, Dr. Carman? On est tellement habitué de se faire dire que le système ne fonctionne pas, puis qu'il y a de toute façon, il manque d'intervenantes, puis il manque de travailleuses sociales, puis l'attente est très, très longue. Vous l'avez testé, là. Il y a des parents qui l'ont essayé, là, puis ça a fonctionné. Il y a eu de l'aide qui a été apportée à ces enfants-là.
Tout à fait. Et vous savez, c'est 60 % des signalements qui ne sont pas retenus. Donc, si ces gens-là pouvaient aller pour les cas plus graves, là, d'abus physiques, d'abus sexuels, ou quand on est très inquiet de négligence extrême, là, ce serait beaucoup plus efficace et valorisant pour ceux qui sont à la DPJ.
Bon.
Mais il faut utiliser notre première ligne qu'on est en train de renforcer.
8-1-1, peser sur le 2. Ça, c'est l'info sociale, puis parce que le 1, c'est info santé. Hein, c'est ça, hein?
Exact.
Bon,
oui.
OK. Vite. J'ai des organismes communautaires qui perdent des employés, notamment des organismes qui luttent contre le suicide, parce que les employés s'en vont dans le service public, s'en vont travailler pour un hôpital, pour un CIS, pour un SUS, parce qu'ils vont gagner 7 piastres de l'heure de plus. Est-ce que, dans les discussions que vous avez avec votre collègue ministre des Finances, est-ce que ce serait possible d'augmenter le salaire des personnes qui travaillent dans les services communautaires, dans les organismes communautaires, pour faire en sorte que nos organismes communautaires ne se vident pas au profit du système, du réseau de la santé?
Mais écoutez, c'est sûr que nous, on travaille avec les organismes communautaires et le financement qui se fait va par le PSOC. On a rehaussé les montants au PSOC de 90 millions là, depuis qu'on est arrivé. C'est sûr que là, avec les augmentations qu'on voit dans le réseau de la santé, ça entraîne un certain enjeu. Mais il y a quand même des avantages à travailler dans le communautaire. Et nous, on veut, surtout en santé mentale, nous, on veut continuer notre partenariat avec les organismes communautaires. Puis il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent.
Mais c'est quoi l'avantage de travailler dans un organisme communautaire quand tu peux faire 7 piastres de l'heure de plus si tu vas travailler pour le CIS ou le CIUS? C'est quoi? C'est quoi l'avantage, Dr Carman?
Mais écoutez, c'est leur propre mission. Ils travaillent avec certaines personnes vulnérables. Il y en a beaucoup qui ont ça à cœur là, de ce travail-là.
Oui,
et moi je travaille. On a fait des belles choses avec les itinérances, les organismes communautaires en itinérance. On a annoncé aujourd'hui de l'aide pour les ressources d'hébergement en dépendance. Et on veut continuer à travailler, comme je vous dis, avec les organismes communautaires en santé mentale et les autres organismes communautaires en général aussi.
Et vous dites qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Donc ça veut dire le budget. Est-ce que c'est le budget de cet automne, le mini-budget ou le gros budget du mois de mars?
Non, ce sera pas nécessairement lié à un budget. C'est notre plan d'action interministériel en santé mentale.
OK. On va attendre ça.
Qu'on a hâte de déposer.
Que vous allez déposer?
Oui, qu'on a hâte de déposer cet automne.
Cet automne? OK, bien vous reviendrez d'abord, c'est des bonnes nouvelles. Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, merci pour l'entrevue.
Merci beaucoup. Au revoir.
À la prochaine. On s'arrête au retour. Comment réduire notre gaspillage alimentaire alors que le prix des aliments ne cesse d'augmenter?